arriver sur un nouveau marché. Mais entre l'Union européenne et les États-Unis, en moyenne, ces barrières tarifaires sont plutôt réduites. L'objectif, dans le cas du GMT, c'est plutôt d'harmoniser les normes, les règles qui encadrent les activités sociales, l'environnement, les aspects techniques des activités professionnelles, probablement non pas vers le haut comme on nous le suggère, mais comme à chaque fois que le modèle étranger est utilisé, pour que chacun des deux partenaires de part et d'autre de l'Atlantique puisse dire « Écoutez, là-bas, les réglementations sont plus favorables aux entreprises, adoptons la même chose, harmonisons nos réglementations. » Et il y a un autre aspect très important du GMT, c'est la possibilité pour les entreprises de se retourner vers les États pour leur imposer leurs droits. Ce sur quoi Benoît Bréville et Martine Bullard ont écrit dans le journal.
Ah ben alors voilà, il se trouve que Benoît Bréville est là. Ça, c'est assez costaud quand même, cette histoire. Hein. C'est-à-dire que les entreprises se tournent vers les États. Alors, on pense que c'est une menace, que c'est un rêve, une utopie ultralibérale, mais pas du tout. C'est effectif.
Il faut même plus que se tourner. Elles les attaquent en justice pour des raisons. Je vais évoquer quelques cas. Et effectivement, c'est un des grands sujets du marché transatlantique. C'est est-ce que ce traité va permettre aux entreprises américaines d'attaquer des États européens, aux entreprises européennes d'attaquer les États-Unis. Auquel titre ils attaquent les États? C'est au titre de ce qu'on appelle la protection des investissements. C'est-à-dire que si une entreprise considère qu'un État a adopté une loi, une mesure, une disposition qui contrevient à ses investissements, elle peut attaquer l'État pour demander réparation. J'ai pris quelques cas. Par exemple, en 2004, le Mexique a créé une taxe sur les sodas pour lutter contre le surpoids, l'obésité dans le pays. Et il y a une multinationale américaine, Cargill, qui a attaqué le Mexique pour demander réparation et qui a obtenu devant un tribunal 66 millions d'euros de réparation de la part du Mexique.
Et les Mexicains continuent à grossir.
Au Guatemala, l'État a voté une loi plafonnant les tarifs de l'électricité qui sont distribués par des compagnies privées. Et il y a une compagnie américaine basée en Floride qui a porté plainte contre cette loi plafonnant l'électricité et qui a obtenu 25 millions d'euros de réparation. Et les entreprises françaises sont concernées aussi puisque un des cas très récents, c'est on a un peu parlé, c'est le cas de Veolia qui a attaqué l'Égypte parce que le pays avait augmenté son salaire minimum après les printemps arabes. Et ça contrevenait donc à ses profits. Voilà, on appelle ça des arbitrages. Donc du coup, ça se fait en marge un petit peu du droit international. Les tribunaux, c'est un tribunal de la Banque mondiale, un tribunal de l'ONU ou des chambres de commerce qui peuvent arbitrer ça. Et c'est trois juges, en fait, qui ont tous les pouvoirs. Il y en a un qui est nommé par la multinationale qui se plaint, l'autre par l'État qui est accusé, et le troisième, donc le président du jury, qui est nommé en accord par les deux parties. Et théoriquement, ces arbitres ne sont pas mandatés ou qualifiés d'une quelconque façon pour pouvoir arbitrer ça. Les États et les entreprises peuvent choisir n'importe qui. Alors, bon, vous en doutez, quand on dit n'importe qui, c'est pas moi ou c'est pas vous. Ce qui est dommage parce que c'est un métier assez lucratif, mais c'est essentiellement des avocats d'affaires. Donc des avocats d'affaires qui viennent d'une poignée de cabinets occidentaux, britanniques, français, américains. Il y en a une vingtaine qui se partagent la plupart des cas qui ont été jugés actuellement. Ils se font payer entre 300 et 500 dollars de l'heure pour des affaires qui durent des mois. Donc vous voyez, ça peut susciter des vocations. Il y a certaines affaires qui ont duré plus de 500 heures. Je crois que le coût moyen d'un procès est de 8 millions d'euros. Un coût qui grossit notamment parce que pour se défendre ou pour attaquer, les multinationales et les États ont besoin de faire appel à une batterie d'avocats qui rémunèrent aussi entre 500 et 1000 dollars. Donc vous voyez, c'est aussi...
L'heure,
oui, je n'avais pas précisé, évidemment. L'heure pour des affaires qui font donc plusieurs centaines d'heures. Et ce qui est intéressant, c'est que ces avocats qui défendent les États et les entreprises sont choisis parmi les cabinets qui fournissent aussi les arbitres. Vous voyez, donc du coup, il y a vraiment une sorte de petite mafia de cabinets d'avocats d'affaires qui est à la fois juge et partie dans ces affaires. Ce qui fait qu'ils ont évidemment tout intérêt à ce que ce genre d'affaires se multiplie.
Mais les États sont vraiment impuissants ou un petit peu complices?
Ben les États sont complices parce qu'en fait, ils peuvent être attaqués à partir du moment où ils ont signé un traité d'investissement avec un État. Donc si la France signe un traité d'investissement avec les États-Unis, ils autoriseront les entreprises américaines à attaquer l'État français si elles le jugent nécessaire. Donc les États sont responsables en ce sens-là. Mais néanmoins, ils sont aussi victimes parce qu'ils se retrouvent à payer des sommes faramineuses. Et vous vous en doutez, c'est surtout, je crois, pour les deux tiers des cas, des États du Sud qui sont attaqués par des multinationales du Nord.
Serge Halimi.
Quand Renaud a expliqué que certains de nos dirigeants se sont montrés concernés, soucieux du traité, il faut rappeler que dans le cas de la France, ça n'est pas du tout le cas. En tout cas, ce n'est pas le cas du président de la République, puisque lorsque François Hollande s'est rendu aux États-Unis, il a au contraire déclaré qu'il fallait aller plus vite dans la voie de la ratification du traité.
François Hollande.
La question qui était posée sur...
11 février 2014.
Le traité...
commercial, enfin, partenariat commercial.